Il est 20h30 à Paris, 18h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Et le journal de l'Afrique ce soir, c'est avec vous Sylvie Berruet, bonsoir.
Bonsoir Véronique, bonsoir à tous. À la une, la disparition d'une légende du basket, le Congolais Dikembe Mutombo, figure de la NBA dans les années 90, est mort à l'âge de 58 ans. Il était l'un des meilleurs défenseurs de sa discipline. Il avait joué une vingtaine de saisons dans la prestigieuse Ligue américaine. Dans l'actualité, la recrudescence des viols en République démocratique du Congo. Médecins sans frontières affirme avoir soigné en 2023 25 000 victimes de viols dans 5 provinces du pays, c'est-à-dire plus du double qu'au cours des précédentes années. Ce sera le dossier d'Afrique Soir et nous irons à Kisangani dans la province de la Tchopo. Dans l'actualité encore, le Sénégal qui condamne l'agression de son député Guy Marius Sagnia lors d'une réunion de l'opposition au Togo ce week-end. Et puis ce sera sa dernière visite à l'international et surtout sa toute première en Afrique en tant que président des États-Unis. Joe Biden est attendu en Angola à la mi-octobre. L'ancien basketteur congolais Dikembe Mutombo s'est éteint ce lundi à l'âge de 58 ans. La Ligue professionnelle américaine de basketball, la NBA, l'a annoncé. Légende du basket africain, voire mondial. Il luttait depuis 2 ans contre une tumeur au cerveau. Bonsoir Babacar Diarra.
Bonsoir Sylvie.
Mutombo avait marqué son sport pendant les années 90, celle de la célèbre star américaine Michael Jordan, dont il a été l'un des principaux adversaires, et la NBA évoque une personnalité exceptionnelle.
Dikembe Mutombo, c'était d'abord une voix imposante, presque déstabilisante.
I'm so honored to be in a basketball hall of fame.
Ce jour de 2015 à Springfield aux États-Unis, il disait toute sa fierté d'être intronisé au Hall of Fame, l'équivalent du Panthéon du basket américain, car du haut de ses 2m18, le pivot congolais avait écrit sa légende pendant une carrière longue de 18 ans en NBA, en étant nommé 4 fois meilleur défenseur de la ligue. Près des paniers, il a magnifié l'art du contre pour repousser les tentatives adverses, le tout avec humour et un geste avec le doigt qui bouge de gauche à droite pour chambrer ses adversaires, dont le meilleur joueur de l'époque, Michael Jordan, qui se gargarisait de pouvoir contourner sa montagne de muscles. Dikembe Mutombo avait touché du doigt par 2 fois le titre NBA lors de 2 finales perdues en 2001 avec Philadelphie, puis en 2003 avec New Jersey, mais son héritage a dépassé les parquets de basketball. Symbole de cela, en 2005, il avait construit un hôpital dans sa ville natale de Kinshasa, un hôpital nommé Biyamba Marie Mutombo, en hommage à sa mère. Une suite logique pour celui qui, jeune, n'était pas destiné à devenir basketteur, mais médecin. Une fois retraité, Mutombo avait poursuivi ses œuvres caritatives tout en endossant un rôle d'ambassadeur mondial de la NBA où chacune de ses sorties à travers le monde rappelait sa cote de popularité. Ce soir, les messages affluent d'Afrique et d'ailleurs pour lui rendre hommage.
Merci Babacar Diarra. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 19h33 à Kinshasa. Il est en fin de mandat et pour son premier déplacement en Afrique, Joe Biden a choisi l'Angola où il se rendra entre le 13 et le 15 octobre. Un choix éminemment stratégique pour les Américains qui veulent consolider leur place auprès de Luanda alors que la Chine est bel et bien implantée dans ce pays. Le président des États-Unis mettra l'accent sur la réhabilitation du corridor ferroviaire de Lobito, 1300 km de voie ferrée qui relie ce port angolais à la région de Lubumbashi en RDC, une zone de production majeure de cuivre et de cobalt, un projet qualifié par Joe Biden de plus important investissement américain de tous les temps dans le rail africain. Charlotte Cossé.
Dans ce projet, les États-Unis et l'Europe se sont alliés. 630 millions d'euros ont déjà été mobilisés afin de rénover le tronçon côté congolais pour exporter les minerais via la côte ouest. Un projet pourtant initialement porté par la Chine qui a, elle, investi plus de 2 milliards d'euros pour réhabiliter la voie côté angolais et qui s'est vu ravir le contrat d'exploitation. Pour contrer cette offensive, Pékin a proposé de relancer la ligne historique Tazara qui permettrait l'exportation du cuivre et du cobalt par la côte est via la Tanzanie. Qu'à cela ne tienne, les États-Unis proposent désormais de prolonger le couloir de Lobito vers Dar es Salaam. Pour le chercheur Thierry Vircoulon, ce positionnement américain illustre la course au contrôle non seulement des ressources, mais surtout des voies d'exportation. La Chine est de loin le premier partenaire partenaire commercial de l'Angola avec près de 60% des échanges pour les Occidentaux. Il s'agit d'un interlocuteur stratégique à conserver, un État africain qui reste ouvert à des accords commerciaux avec les capitales occidentales, contrairement à un nombre grandissant d'États qui préfèrent se tourner vers de nouveaux alliés.
Médecins sans frontières s'inquiète de la recrudescence des viols en République démocratique du Congo. L'ONG affirme dans un rapport qu'elle a soigné en 2023 25 000 victimes, soit plus du double qu'au cours des années précédentes. Dans le nord-est du pays, dans la province de la Tchopo, l'augmentation des cas de viols préoccupe également les autorités sanitaires. Rendons-nous à Kisangani, chef-lieu de la province, avec ce reportage de Joseph Kaongo.
Victime d'un viol dans un quartier populaire de Kisangani, cette fille de 17 ans a accepté de témoigner anonymement sur ce qu'elle a subi alors qu'elle était seule dans la maison de ses parents.
Il était 12h ce jour-là, j'ai vu notre voisin entrer dans la maison. Il a dit qu'il voulait être mon mari. J'ai refusé, il m'a forcée à coucher avec lui et je suis tombée enceinte.
Sa famille et les violeurs ont trouvé un arrangement à l'amiable, ce qui a évité à ce dernier des poursuites judiciaires. Ce manque de dénonciation est justement un frein à la lutte contre les viols, regrette le docteur Marie-Thérèse Mokaria, coordonnatrice provinciale du Programme national de la santé de la reproduction.
Dans la communauté, c'est plus l'esprit de résolution des problèmes à l'amiable et ces filles sont abandonnées à leur propre sort. Et il faut noter que les cas qui arrivent dans des structures, ce sont des cas qui connaissent des complications. Bien, ce sont des cas qui sont référés par la police parce que la police veut avoir les éléments à travers la réquisition à médecins.
En 2023, la province de la Tchopo a enregistré 1976 cas de violences sexuelles. Un chiffre alarmant, s'inquiète le docteur Marie-Thérèse Mokaria. Selon la coordination provinciale du Programme national de la santé de la reproduction, l'augmentation des violences sexuelles dans la Tchopo est principalement due aux conflits communautaires et au manque de poursuites judiciaires. Joseph Kaongo, Kisangani, RFI.
Et la plupart des victimes de ces viols vivent dans des camps de déplacés autour de la ville de Goma, dans le Nord Kivu. Christopher Mamboula, responsable des programmes de Médecins sans frontières en RDC, était l'invité de Nicolas Sûr dans Afrique Midi.
C'est des gens en fait qui sont déplacés à cause de conflits et malheureusement avec une faible réponse humanitaire parce qu'effectivement ces personnes-là sont forcées d'aller chercher à vivre en dehors de ces camps-là, et c'est là où une grande partie de ces violences, en fait, se passe.
Oui, en fait, hein, ces personnes qui sont des femmes, hein, quasi exclusivement, celles que vous recevez dans vos structures de santé, sont agressées parce qu'elles sortent du camp pour aller trouver de la nourriture à l'extérieur, hein, dans les champs avoisinants.
C'est ça.
Elles sont aussi agressées à l'intérieur des sites. Il y a de l'exploitation, des hommes qui promettent de les aider à accéder à des distributions, qui les agressent. Et puis des femmes agressées aussi aux latrines, aux douches, aux points d'eau qui se trouvent dans ces camps.
Oui, malheureusement, c'est le cas. Les camps sont débordés. Il n'y a pas suffisamment de place pour chaque foyer, pour chaque famille. Dans une grande promiscuité comme ça, tout est mélangé et puis des fois c'est la chaos.
Qui sont les agresseurs?
Il y a une partie en fait, surtout ce qui se passe en dehors des camps. Les victimes racontent qu'il y en a souvent des gens en armes. Des hommes armés, c'est pas très clair en fait de quel groupe ils appartiennent ou ils soutiennent. Mais quand même, c'est quelque chose que nous avons constaté.
Et à l'intérieur, ce sont des déplacés eux-mêmes?
Oui, à l'intérieur, c'est tout un mélange aussi. Ça peut être des déplacés eux-mêmes, ça peut être aussi, comme vous avez dit, des gens aussi qui les prennent comme c'est des victimes qui cherchent aussi à vivre. Et donc, ces camps-là, ils sont aussi accessibles à des gens de l'extérieur qu'aussi qui passent dans les camps.
Qu'est-ce que vous recommandez pour enrayer ce fléau, Christopher Mamboula?
Nous parlons d'augmenter l'aide humanitaire, parce que si les gens arrivent quand même à avoir suffisamment de moyens à vivre, bon, ils vont évidemment sortir moins. Deuxième, c'est aussi la question de l'insécurité et dans les camps, mais aussi autour de ces camps-là. C'est aussi la société civile, voir comment passer des messages forts à tous en fait qui vivent autour de ces populations, qu'il y a quelque chose à cette ampleur en fait qui se passe.
Christopher Mamboula, responsable des programmes de Médecins sans frontières en RDC avec Nicolas Sûr.
Abidjan, 97.6 FM.
C'est la réponse de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Il y a une semaine, les autorités militaires burkinabées ont affirmé avoir déjoué plusieurs tentatives de déstabilisation du pays. Ouaga pointait notamment du doigt un groupe venant de Côte d'Ivoire. Et c'est faux, rétorque Abidjan par la voix de son ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. On l'écoute.
La Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. La Côte d'Ivoire, dans sa politique, n'a jamais participé à la déstabilisation d'un pays voisin et n'a pas l'intention de le faire, puisque dans tous les cas, c'est ici que tous les pays qui ont quelques difficultés voient leurs ressortissants venir. Point de besoin de vous rappeler que nous avons près de 60 000 réfugiés burkinabés qui ont fui les actes donc du terrorisme dans leur pays. Il n'est pas non plus besoin de rappeler que notre sol, de façon officielle, héberge un peu plus de 3 millions de burkinabés. Nos peuples ont des relations historiques qui datent d'avant même la constitution de nos États. Il n'y a donc aucune raison de mener quelque action qui puisse diviser ces peuples qui vivent en harmonie et en bonne intelligence.
Des propos recueillis par Binta Diagne. Et dans un communiqué ce lundi, la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains, dénonce des violations des droits et des libertés qui ont atteint, je cite, un niveau très inquiétant au Burkina Faso. 2 ans après le coup d'État, la junte, écrit la FIDH, a progressivement mis en place un système de répression. La FIDH dénonce des arrestations, des séquestrations et réclame la libération de toutes les personnes détenues arbitrairement. RFI, Afrique Soir, 18h passées de 41 minutes à Lomé. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères condamne fermement l'agression de Guy Marius Sagna au Togo dimanche. Le député sénégalais qui était à Lomé dans le cadre d'une session délocalisée du Parlement de la CEDEAO a été violemment agressé alors qu'il participait à une réunion organisée par la plateforme d'opposition DMP, dynamique pour la majorité du peuple. Plusieurs participants ont également été blessés par des individus qui ont lancé des chaises en direction de la tribune. Beaucoup de voix s'élèvent au Togo et au Sénégal pour dénoncer ces violences. Fondateur du think tank Africa Jeune Center, se dit indigné mais pas surpris.
Guy Marius Sagna, vous savez, a déjà été agressé au Parlement de la CEDEAO déjà. Et aujourd'hui, cette attaque, elle est scandaleuse de la part d'un pays quand même qui se dit un état de droit, qui se dit un état démocratique. Ce que nous demandons, c'est que les autorités togolaises ouvrent immédiatement une enquête judiciaire, identifient les responsables et les acteurs de ces actes qui sont des actes criminels, il faut bien le dire, et bien sûr de les punir. Même la diplomatie sénégalaise intervient, ça veut dire effectivement que les gens ont été particulièrement choqués de voir un député sénégalais traité avec autant de violence au Togo, tout simplement pour avoir exprimé son opinion sur la gouvernance au Togo.
Alioune Tine, fondateur du think tank Africa Jeune Center, qui dit également attendre une réaction de la CEDEAO. Le choc et l'indignation également à Lomé. Plusieurs acteurs politiques et organisations de la société civile condamnent ces violences. Des voix s'élèvent pour dénoncer des agissements destinés à faire taire les voix dissidentes. Alors que répondent les autorités togolaises à ceux qui les pointent du doigt? Écoutez la réponse de Yawa Kouigan, porte-parole du gouvernement togolais.
Il y a là de l'émotion qui est normale, mais au-delà de l'émotion, beaucoup de mauvaise foi. Les circonstances déplorables dont nous parlons ne doivent pas nous amener à porter des accusations gratuites, ce qu'on a pu entendre par-ci, par-là, mais encore une fois, à donner à la justice togolaise tous les moyens de diligenter une enquête en bonne et due forme.
Mais plusieurs témoins ou participants disent qu'il y avait des policiers devant justement le lieu, que les policiers n'ont pas bougé à aucun moment.
Je l'ai entendu dire également, mais je vais réserver la responsabilité de cela à ceux qui le disent. Pour avoir échangé avec mes collègues en charge de ces services, ils n'ont pas été requis et ils n'ont pas vocation à se positionner dans tous les lieux où se tiennent des réunions à caractère privé.
Voilà des propos recueillis par Magali Lagrange. En bref, dans l'actualité, 12 Tunisiens qui tentaient d'émigrer clandestinement vers l'Europe, dont des bébés et des femmes, sont morts noyés dans le naufrage de leur bateau devant les côtes de l'île touristique de Djerba, dans le sud-est de la Tunisie. Une annonce aujourd'hui des autorités. 29 autres personnes ont pu être secourues.
RFI à Dakar, 92 FM.
Direction le Sénégal avec les promesses des nouvelles autorités de faire le ménage après celle du Premier ministre Ousmane Sonko d'enquêter sur ce qu'il qualifie de corruption généralisée du régime sortant. Le président Bassirou Diomaye Faye a lui annoncé dans une interview à Al Jazeera qu'un comité chargé de passer en revue les contrats signés par le Sénégal avec des entreprises étrangères s'était mis au travail. Les explications depuis Dakar avec Léa Lisa Westerhoff.
Ce réexamen des contrats signés avec les multinationales, avec en ligne de mire une possible renégociation si le Sénégal ne devait pas être gagnant, c'est l'une des nombreuses promesses électorales des nouvelles autorités. Promesses renouvelées dans le discours d'investiture de Bassirou Diomaye Faye en avril. Le 19 août dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko a ainsi officiellement installé cette commission, avec à son bord des hauts cadres de l'administration sénégalaise, des experts juridiques, fiscaux et du secteur de l'énergie, chargés de revoir en priorité les contrats miniers, pétroliers et gaziers. Depuis, aucun détail sur le travail de ces experts n'a filtré, mais sont très attendus l'analyse du contrat avec Woodside, la compagnie australienne qui exploite le bloc pétrolier à 100 km au sud de Dakar, et British Petroleum qui opère le champ gazier partagé avec la Mauritanie dans le nord du pays, près de Saint-Louis. Aucun calendrier n'a pour l'heure été annoncé. Le travail sera fastidieux, a d'ores et déjà prévenu le Premier ministre fin août, qui assure qu'il ne s'agit pas, je cite, de nationaliser ou de tout raser, mais de rééquilibrer si besoin le gain partagé pour les deux parties. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
En Libye, c'est peut-être l'épilogue d'une crise qui durait depuis plusieurs semaines et qui a entraîné la fermeture des installations pétrolières ainsi que d'énormes pertes financières. Le Parlement libyen, installé dans l'est du pays, a voté ce lundi la nomination d'un nouveau gouverneur de la Banque centrale. Celui-ci, avec le vice-gouverneur, ont 10 jours à présent pour constituer un conseil d'administration, selon le porte-parole du Parlement libyen. Le Mozambique, selon une enquête du journaliste Alex Perry, parue le 26 septembre dans le média en ligne Politico, des soldats mozambicains employés par Total Energy auraient violé et tué entre 150 et 250 civils sur un site de l'entreprise française dans la province du Cabo Delgado, au nord du pays. Explication Igor Strauss.
Les témoignages des survivants sont insoutenables. Des soldats mozambicains employés par Total Energy auraient détenu arbitrairement des hommes pendant 3 mois. Battus, affamés, torturés, puis exécutés, il n'y aurait que 26 survivants. Tout commence en 2019 lorsque Total Energy rachète des parts d'un énorme projet de production de gaz dont les puits se trouvent dans la péninsule d'Afungi, une région isolée en proie à une violente insurrection islamiste. Pour sécuriser son site, Total Energy fait appel à 700 soldats mozambicains, payés, équipés et logés par le groupe français. En juin 2021, des villageois fuyant une offensive du groupe terroriste Al-Shabaab pensent trouver refuge auprès de ces militaires. Accusés par ceux-ci d'être des djihadistes, ils sont finalement exécutés après 3 mois de détention. L'alliance de la majeure pétrolière avec l'armée mozambicaine soulève donc des questions. Total a-t-elle eu connaissance de ces massacres? Savait-elle qu'elle employait des tueurs tortionnaires? L'entreprise affirme que non et nie toute complicité avec ses soldats, mais une coalition d'ONG internationales appelle à l'ouverture d'une enquête.
Igor Strauss, le prix d'achat du cacao planteur de Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, a été fixé à 1800 francs CFA, 2,7 euros le kilo. C'est un montant record après une année où les cours mondiaux ont atteint des sommets. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministre de l'Agriculture. Le gouvernement a décidé d'une hausse de 20%, a déclaré Kobenan Kwasi Adjoumani lors d'une cérémonie à Abidjan. Le cacao ivoirien qui représente 45% de la production mondiale, c'est-à-dire plus de 2 millions de tonnes et qui compte pour 14% du produit intérieur brut de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Chaque week-end au Congo-Brazzaville, les salles de mariage sont pleines à craquer. Elles affichent complet. À Brazzaville, l'état civil estime que les mariages ont augmenté de plus de 30% entre 2020 et 2024. Alors, effet de mode ou changement de mentalité? Écoutez le reportage de notre correspondant, Louisia Martial.
Nous sommes samedi, en début d'après-midi. La salle de mariage du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville est pleine à craquer. Elle est prise d'assaut par une foule bigarrée et multicolore. Des cris de joie sont assourdissants. Soudain, la maîtresse de cérémonie annonce l'arrivée du maire du 5e arrondissement.
Vous levez pour l'entrée en salle de l'officier d'état civil sous vos applaudissements.
Pendant ce temps, quatre couples ainsi que leurs parrains ont déjà pris place. Parmi les couples à marier, il y a celui de Lucie Hortense et Guy Gervais, journaliste de son état.
Le mariage, c'est la consécration d'une union en couple. C'est après 26 ans de vie commune avec ma femme. C'est dire quand même qu'il fallait se faire ce plaisir-là soi-même et honorer une fois de plus ma femme devant l'autorité d'état civil.
Nombreux sont les Congolais, comme Guy Gervais, qui honorent de plus en plus leurs âmes sœurs ces derniers temps. Maire du 5e arrondissement, Marcel Nganungu, en évoque quelques raisons.
Le mariage, c'est une fête. On ne peut pas fêter cet événement grandiose si le climat de paix ne règne pas dans le pays. Et c'est d'abord ça, le départ. Et de deux, il y a aujourd'hui quand même des jeunes gens avec une petite embellie peut-être financière. Ils ont compris qu'il va de soi qu'ils puissent s'acquitter d'un devoir, celui de venir honorer leurs épouses devant l'officier d'état civil. Il y a aussi quelques églises de réveil qui ont pour fondement le mariage. C'est-à-dire que pour être évangéliste et tout, il faut être stable.
Le sociologue Eric Aimé Kouizoulou constate quant à lui un regain d'intérêt.
Il y a d'abord la conformité à la norme sociale et puis il y a un effet de mode maintenant. Il y a un snobisme, il faut être à jour, il ne faut pas faire les choses comme le faisaient les anciens qui restaient d'abord pendant des années, ils ont fait des enfants. C'est au crépuscule de leur vie qu'ils trouvaient l'utilité de se marier.
Pour le sociologue, les jeunes ont décidé de changer les choses. Mais la fidélité dans le mariage est une autre paire de manches. Relève-t-il Loïcia Marcia, Brazzaville, RFI.
RFI, 20h52 à Paris. Le Proche-Orient, Israël mène actuellement des opérations terrestres limitées visant le Hezbollah dans le sud du Liban, près de la frontière. C'est ce qu'indique ce soir le département d'État américain. L'armée israélienne qui a instauré une zone militaire fermée autour de trois localités frontalières du Liban et l'armée libanaise, elle qui a décidé de repositionner ses troupes après dans le sud du pays, selon un responsable militaire. Plus de détails, bien sûr, dans nos prochaines éditions. À suivre ce soir sur la radio du monde, Accent d'Europe à 19h10, temps universel. Nous partirons en Allemagne dans un lycée du Brandenburg où des jeunes venus de plusieurs pays se sont retrouvés pour parler de démocratie, un débat crucial alors que l'extrême droite a obtenu près de 30% des voix aux dernières élections régionales. Stéphane Bastos, organisateur de ce projet Europa Mobile en Allemagne.
Les récentes élections jouent un rôle important dans nos ateliers. Elles planent comme un nuage au-dessus de nos têtes et de nos projets. Et nous voyons le travail qu'il nous reste à faire. On se bat contre de gros opposants, comme les médias sociaux, les infos écourtées, la désinformation. Nous en parlons activement dans nos ateliers.
À suivre également ce soir sur la radio du Monde, grand reportage, nous irons aux États-Unis. Le Michigan, dans le nord-est du pays, fait partie des états clés pour l'élection de novembre prochain. Élection incertaine, cet état peut facilement basculer d'un camp à l'autre. Le vote, il sera donc capital, en particulier celui de la classe moyenne qui souffre d'une grave crise économique. Michigan, l'inflation au cœur du vote ouvrier, grand reportage d'Anne Verdaguer avec la réalisation de Pauline Duc, c'est à 21h40 temps universel.
Michigan is a union town and union.
Le Michigan est traditionnellement un État syndicaliste et donc démocrate. Mais la base est en train de s'éroder, car les gens ont l'impression que les démocrates les ont laissés tomber avec l'inflation et le prix des denrées. Et ça pose un énorme problème. Les gens ne peuvent plus suivre. Les prix ont augmenté de 25 à 30% dans l'alimentation. On dit souvent que le véhicule le plus cher aux États-Unis est le caddie de course. En plus, le gouvernement a fait de nombreuses erreurs en coupant les aides aux plus nécessiteux depuis l'année dernière, au point que l'on est revenu à des niveaux pré-pandémie. Les gens sont en train de revoir leur orientation politique.
Et la soirée s'achèvera en musique avec, bien sûr, Couleur Tropicale, 22h10, temps universel. Vous entendrez Bramsito, rappeur d'origine congolaise, le 25 octobre. Il sort son nouveau projet baptisé Big Man.
On danse comme ça, 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 ça. Mais nos assemblances comme ça, comme ça. On aime trop ça, trop ça. Tout mais nos assemblances comme ça, comme ça.
Et musique encore, cet extrait de la playlist RFI que vous pouvez retrouver sur toutes nos plateformes musicales. Fally et Poupa qui se fait remarquer, on le sait, par Kofi Olomidé. Et sur son dernier morceau, 207, il chante en duo avec l'artiste René Soso Pembe. Ils célèbrent ensemble la culture Anamango à travers le clip dans lequel ils apparaissent en costume traditionnel. C'est le titre de ce duo de Fally Ipupa avec René Soso Pembe. En duo, donc, merci de nous avoir suivis. Merci à Arthur Geoffroy, à la réalisation et à la préparation de cette émission, Alexandra Brangeon, ainsi que toute l'équipe d'Afrique Soir. Bonne soirée.
Retrouvez RFI sur WhatsApp.
Vous pouvez recevoir l'essentiel de l'actualité internationale sur votre application de messagerie et réagir aux informations. Pour vous abonner, rendez-vous sur l'application WhatsApp dans la rubrique Actu. Tapez RFI dans la barre de recherche, demandez à suivre notre chaîne et activez les notifications.
La chaîne WhatsApp de RFI, c'est à retrouver sur votre téléphone mobile. Ce lundi, sur RFI.
Comment faire écho aux initiatives des scientifiques africains ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
De Kigali à Dakar, de Libreville à Kenitra, les jeunes chercheuses et chercheurs se mobilisent en réseau sur tout le continent autour des objectifs de développement durable. Comment soutenir cette nouvelle génération engagée de scientifiques africains ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
Octobre rose, cancer et travail, quelles recommandations, quelles options?
Mercredi.
Distinguez le vrai du faux sur votre cerveau.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 71 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Bas les pattes.
Un podcast RFI.
Penaï Traoré.
Après une première saison sur la place des femmes dans les sociétés africaines dans l'ère post-MeToo, je vous reviens pour une saison 2. Et cette fois-ci, je m'intéresse aux inégalités de genre, aux mécanismes de la domination masculine et plus spécifiquement aux masculinités noires. Alors, retrouvez-moi dans les 10 épisodes de la saison 2 de Bas les pattes.
Bas les pattes, à écouter sur les sites et applications de RFI et toutes les plateformes de podcast.